Merci pour cette première partie de culte qui nous a permis de célébrer notre Seigneur. Et nous voulons maintenant ouvrir la parole du Seigneur dans la première lettre à Pierre. Première lettre à Pierre, chapitre 3. Et je lis à partir de la Bible second 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Et je continue à partir du verset 18. Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et qui se trouve à la droite de Dieu. Jusque-là, notre lecture. Seigneur, que cette parole nous vivifie ce matin, que nous puissions la comprendre. Bénis-la. Amen. Voilà plusieurs fois que nous parlons de souffrance dans nos cultes, que nous avons évoqué le fait de devoir accepter parfois de souffrir injustement, que nous avons évoqué le fait de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de faire le bien. Et ce matin encore, nous voulons voir comment nous pouvons vivre cette vie-là qui nous est demandée et comment le Seigneur nous en présente l'exemple et comment il va nous arracher à ses souffrances un jour pour nous emmener dans la gloire. En tant que chrétiens, nous n'appartenons pas au système de ce monde. Et notre foi, forcément, nous rend un peu différents. Nous avons d'autres valeurs. Nous avons d'autres manières de faire, ou nous devrions avoir d'autres manières de faire. Un chrétien ne peut plus accepter de vivre dans le désordre. Il ne peut pas accepter de vivre dans l'ivrognerie ou dans la débauche. Il ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Il ne peut pas participer aux moqueries collectives. Et parce qu'il est différent, le chrétien peut parfois encourir des difficultés. Les autres peuvent ne pas accepter qu'il soit différent. On peut lui en vouloir, par exemple, de ne plus faire la fête avec les copains toute la nuit. Et le dimanche d'aller à l'église. On peut lui en vouloir d'aider les autres, et spécialement ceux qui sont un peu différents et desquels on aime bien se moquer. Comment, en tant que chrétiens, devons-nous réagir dans cette société ? Ça pose la question de notre identité. Qui suis-je au fond ? Je suis d'abord un enfant de Dieu. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu, et comme un enfant de Dieu, que je dois réagir. D'où est-ce que je viens ? Bien sûr, j'ai une origine sociale, j'ai un pays d'origine, j'ai une langue d'origine. Mais je viens d'abord du Christ, lui qui m'a amené et entraîné dans une nouvelle vie, qui m'a fait naître de nouveau. La question qui se pose dans notre rapport à la société, dans notre rapport aux autres, c'est finalement comment est-ce que nous pouvons vivre ensemble ? Comment est-ce que nous pouvons faire société ensemble ? Au chapitre 2, Pierre avait encouragé les églises d'Asie mineure à s'intégrer dans la société, à accepter les gouvernements, les autorités, quelle que soit la forme du gouvernement, pour autant que la conscience le permette, que ça ne pousse pas à devoir trahir Dieu. Mais la règle de base, c'est d'essayer de s'intégrer dans la société, de se soumettre aux autorités établies. Mais Pierre va plus loin que cela. Au-delà d'une soumission, il encourage à faire du bien dans la société. Je suis frappé parfois de voir que certains chrétiens pensent qu'on devrait se couper du monde, qu'on ne devrait pas avoir de lien, qu'on devrait être en vase clos. Ce n'est pas ça, le témoignage du chrétien. Nous sommes appelés à être dans un monde pour apporter le témoignage de Dieu, vivre comme des enfants de Dieu, faire du bien autour de nous. Nous devons nous engager dans la société, c'est important. Mais si en m'engageant dans la société, malgré tout, on me traite injustement, parce que je suis chrétien, parce que je veux suivre le Christ, Pierre nous dit que cette souffrance-là, on doit l'accepter comme une grâce. Pourquoi une grâce ? Parce que nous sommes juste les imitateurs de Jésus-Christ. Jésus aussi a dû accepter des souffrances injustes. Et nous sommes appelés à marcher dans ses traces. Un peu comme des marques sur le sable, où nous voyons bien les traces des pas, nous sommes appelés à mettre nos pas dans les traces de Jésus-Christ. Et quand Jésus était insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a été maltraité, il n'a pas menacé en retour. À partir du chapitre 3, verset 8, c'est là où nous avons commencé notre lecture aujourd'hui. Pierre nous appelle à nous aimer les uns les autres, à aimer les autres, à aimer tous les autres, aussi bien ceux qui sont agréables à vivre que ceux qui le sont moins, aussi bien les gens dans la société que nos frères et nos sœurs dans l'Église. Pierre nous appelle à aimer tous les autres. Même celui qui me fait du mal, même le méchant dans la société, même celui qui cherche à me nuire. Et Pierre va plus loin, il dit que aimer les autres, c'est aimer la vie. Un beau slogan, hein ? Aimer les autres, c'est aimer la vie. Pourquoi ? Parce qu'on permet une qualité de vie en aimant les autres. Une qualité de vie ici-bas, sur la terre, et puis une qualité de vie dans la vie éternelle. Donc nous ne sommes pas juste appelés à nous soumettre à des gouvernements, à des autorités. Nous ne sommes pas juste appelés à avoir de la considération, du respect. Mais nous sommes appelés plus largement en tant que chrétiens à aimer tous les autres, ceux qui sont là autour de nous, ceux que nous côtoyons. Et cet amour, nous dit Pierre, commence dans l'Église. Il ne faut pas être utopique. Parfois, nous pensons que d'arriver dans une Église va permettre de vivre déjà le ciel sur la terre. Et effectivement, l'Église est appelée à refléter le ciel sur la terre. C'est sa mission. L'Église, c'est une société nouvelle. C'est une société composée de personnes qui sont nées à une vie nouvelle, qui ont été régénérées, qui ont été lavées de leurs souillures, qui veulent mener une vie nouvelle, qui veulent mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, l'Église est composée aussi de pécheurs qui, quoique repentis, ne sont pas encore au bout du processus de sanctification. Il y a des chrétiens qui se laissent encore aller à la colère, d'autres qui continuent de voler, d'autres qui continuent d'avoir des comportements ségrégationnistes, d'autres qui colportent des médisances, d'autres qui sont jaloux. Et puis, soyons un tant soit peu honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que nous ne faisons pas partie aussi, est-ce que je ne fais pas partie aussi parfois de ces gens qui agissent injustement au sein même de la communauté chrétienne, qui répondent mal à quelqu'un qui agace, qui ne prêtent pas attention à quelqu'un qui aimerait qu'on s'intéresse à lui? Or, Pierre écrit, verset 8, « Ayez les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Donc Pierre nous invite à la communion. Et la communion ne veut pas dire que nous devrions tous penser la même chose. Il n'y a pas de pensée unique dans l'Église. La communion ne veut pas dire que nous devrions tous suivre le même programme de manière autoritaire. Il y a de la place pour la diversité dans l'Église. Nous ne devons pas gommer les différences. La communion n'empêche pas la diversité, elle n'empêche pas l'altérité. Au sein d'une même Église, nous pouvons avoir des intérêts différents. On peut avoir des avis différents. Par contre, la communion nécessite que l'on ne transige pas avec la qualité de la relation. Il n'est pas possible, il n'est pas envisageable de s'accoutumer à l'indifférence des relations, à l'indifférence à l'autre. Il n'est pas envisageable de s'habituer à vivre dans des relations d'injustice, à rendre le mal pour le mal, à vivre chacun pour soi en complète autonomie. Cette communion fraternelle à laquelle Pierre nous encourage, elle implique de pouvoir avancer ensemble, en tant que groupe, en tant que peuple de Dieu. Nous ne devons pas tous être semblables. Nous sommes différents les uns des autres, mais nous devons avancer vers un même but. Et ce but, quel est-il? Quel est le but qui nous est assigné en tant que groupe, en tant que peuple de Dieu? C'est de plaire au Seigneur. Pierre continue en disant, verset 9, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. » Et quand il dit cela, il vient de parler de la communion dans l'Église. Rien n'indique qu'il ne penserait plus à la communion dans l'Église, parce que malheureusement, il est lucide, il sait que même au sein de la communauté des croyants, il arrive que l'on rende le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Il pense à ces rapports entre les croyants. Mais on peut se dire, comment faire quand quelqu'un agit de manière injuste à mon égard? Au chapitre 2, je vous l'ai dit en préambule, Pierre avait déjà dit que souffrir de manière injuste doit être considéré comme une grâce parce que nous sommes à la suite de Jésus-Christ. Mais ici, il va plus loin. Quelqu'un agit-il injustement à votre égard? Pierre dit, bénissez-le, bénissez-le. Or, vous vous souvenez de Pierre, un homme impulsif, quelqu'un qui réagissait au quart de tour. C'est lui qui avait dégainé son épée pour arracher l'oreille à ce soldat qui avait arrêté Jésus. Mais Pierre a été transformé, transformé par la grâce de Dieu. Son tempérament n'a pas changé. Il est resté quelqu'un qui avait de l'énergie, qui pouvait réagir, mais sa manière de réagir a été transformée. Pierre a compris que désormais, il ne pouvait plus répondre à l'agressivité par l'agressivité, mais qu'il fallait qu'il apprenne à bénir. Et ce qu'il a appris nous le transmet. Apprenez à bénir. Nous devons être des personnes bénissantes pour que nous-mêmes, nous puissions hériter la bénédiction. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi du talion. On va rendre à l'autre ce qu'il m'a fait. Pas plus, pour ne pas entrer dans l'injustice, mais la même chose pour qu'il comprenne. Ici, Pierre introduit une autre loi, la loi de la bénédiction. Mais vous allez convenir avec moi que ce n'est pas évident de bénir quand on a été traité injustement. Et qu'est-ce que veut dire bénir dans ces cas-là? Quand l'autre est venu nous agresser, quand nous sentons la frustration au fond de nous, quand la colère monte, quand l'estomac est noué, qu'est-ce que veut dire bénir l'autre? Comment est-il possible de bénir celui qui a répandu des calomnies à notre sujet ou qui nous a traités injustement? Comment bénir quand je souffre de cette injustice? Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous serions épargnés de toutes les émotions, de tout ce qui pourrait nous habiter dans ces cas-là. J'aimerais d'abord dire quelque chose, c'est que bénir, ce n'est pas appeler le mal bien. Le mal reste le mal. Et il ne s'agit pas d'annuler la distinction entre ce qui est mal et ce qui est bien. Donc nous ne sommes pas appelés à bénir le mal. Le mal est toujours à dénoncer, toujours. Mais ce qu'il faut, c'est casser le cycle de la violence. Répondre au mal par le mal, c'est entrer dans le cycle de la violence. Et pour rompre ce cycle, Pierre nous dit « bénissez ». Bénissez, c'est-à-dire dites du bien. Ayez des paroles, pas des paroles empreintes de miel et qui sont pompeuses, ayez des paroles vraies, justes, mais qui ne cherchent pas à rendre les coups. J'ai relu cette semaine toute la deuxième épître aux Corinthiens. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire au cours de la semaine qui vient. Dans cette lettre, Paul prend le soin de se défendre par rapport aux accusations dont il est la proie. Il défend son ministère, il dénonce les agissements qui sont injustes, mais il prend le soin de montrer comment Dieu aimait ses croyants à qui il s'adresse et comment il peut les bénir à son tour. Bénir, ce n'est pas calomnier la personne, ce n'est pas la diffamer, c'est dire du bien. C'est d'essayer de voir mon frère et ma sœur comme Jésus le voit. Et comment Jésus nous voit? Quand Jésus rencontrait des personnes qui faisaient le mal, il dénonçait ce mal. Mais son but, c'était toujours que la personne puisse se relever et qu'elle puisse se détourner du mal qu'elle a commis. Quand Pierre a trahi Jésus, lors du procès de Jésus, qu'a fait Jésus? Il ne l'a pas rejeté. Il est allé à sa rencontre. Il lui a tendu une perche pour qu'une nouvelle relation puisse être instaurée entre eux. Et il lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu ? Il a invité Pierre à sortir de l'enfermement sur lui-même et à renouer une relation. C'est cela, bénir l'autre. Bénir, c'est avoir un comportement qui est adéquat. C'est même aller jusqu'à manifester de la bonté, à être prêt à faire du bien pour celui qui nous a fait du mal. Ce n'est pas anodin d'avoir une parole de bénédiction. Cette parole, elle a du poids. Cette parole change quelque chose. Si je dis à mon frère ou à ma sœur que le Seigneur te bénisse, ce n'est pas une parole magique qui, par elle-même, va produire une efficacité. Mais c'est une parole qui n'est pas anodine. C'est une parole que Dieu entend et qui va produire son effet dans la personne concernée. Parce que Dieu prend au sérieux l'attitude qui est la nôtre et les paroles qui sont les nôtres. Et ceci dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, bénir, ce n'est pas cautionner le mal. Si une communauté se tait, par exemple, face au mal qui est commis en son sein, elle va entretenir le cycle de la violence. Elle va permettre que la porte soit ouverte à ce que d'autres fassent la même chose. Et c'est pour ça que de nombreux textes du Nouveau Testament appellent à une discipline dans l'Église. Cette discipline n'est pas là pour punir et exclure, elle est là pour rappeler que nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment dans la communauté du Seigneur et que s'il y a eu des comportements inadéquats, il s'agit de s'en repentir. Après que nous ayons étudié cette première section du texte que j'ai lu tout à l'heure, j'aimerais passer à la deuxième section maintenant. La deuxième section qui nous place face à Jésus-Christ, face au modèle de Jésus. Les versets 18 à 22. Dans ce texte, il est écrit que Christ aussi a souffert. Mais ajoute Pierre, il a triomphé et Christ nous entraîne dans son triomphe. Alors, cette section, les versets 18 à 22, fait partie sans doute des textes les plus difficiles du Nouveau Testament. Et je ne pourrai pas entrer dans tous les détails. Je l'ai fait un peu en étude biblique cette semaine avec les quelques personnes qui étaient là. Mais l'enseignement à retenir est assez simple. Et surtout, il est encourageant. Ce qui nous est dit dans ces quelques versets, c'est que les souffrances font partie du monde présent. Nous ne pouvons pas les éviter. Par contre, nous sommes invités à les traverser en suivant les traces de Jésus et en agissant comme lui sur le chemin de la croix. Mais après les souffrances, il y a la gloire. Il y a le triomphe. Quand Jésus est mort à la croix, on aurait pu estimer que c'était une défaite, qu'il n'avait pas réussi. Or, Jésus a triomphé de la croix et il est revenu à la vie. Et ce que nous dit l'expérience de Jésus, c'est que si lui est revenu à la vie, il veut nous entraîner dans sa vie. Et on voit dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection, un schéma qui se dessine et qui est formé de deux éléments. Il y a d'abord la souffrance et il y a ensuite la victoire. On retrouve ce même schéma tout au long de l'histoire du salut pour les croyants. La souffrance avant de remporter la victoire. Le texte nous parle d'un personnage historique, Noé. Noé a souffert dans le monde dans lequel il était. C'était un monde corrompu, un monde où le mal atteignait des sommets. Et Dieu a eu longtemps patience. Mais à un moment donné, sa patience est arrivée à son terme et il a décidé de punir, de juger. Il n'y a qu'un tout petit nombre de personnes qui ont été sauvées lors du déluge. Noé, et avec lui, ça faisait 8 personnes. Avec Noé, on a le schéma de la souffrance, du jugement des uns et de la majorité, et de la grâce et de la victoire pour une minorité qui est restée fidèle. Et pour nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous souffrons, mais Dieu veut juger ce monde. Il veut le juger par Jésus-Christ. Et il va sauver ce petit reste, cette minorité peut-être, mais ceux qui sont fidèles à la parole. Il va les sauver comme il l'a fait pour Noé. Voilà le message. Je vais entrer maintenant dans un peu plus de détails. Dans ces versets 18 à 22, nous voyons que Christ a triomphé de toutes les oppositions visibles et invisibles. Nous voyons que Christ était vainqueur, le grand vainqueur. Et c'est parce qu'il est le vainqueur qu'il veut nous donner la force de bénir les autres et non pas de les maudire ou de les incendier d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est le vainqueur, Christ veut nous donner la force de marcher dans l'engagement de notre baptême. Nous avons pris un engagement au baptême, celui de suivre Jésus. Eh bien, Christ veut nous aider, nous donner la force, parce qu'il est vainqueur, de marcher dans l'engagement de notre baptême. Il veut nous mettre dans son camp, dans le camp des vainqueurs. Nous ne sommes pas dans le camp des vaincus, nous sommes dans le camp des vainqueurs. Et ce qui nous est dit dans ce texte, c'est que ceux qui nous veulent du mal et qui veulent nous détruire, en définitive, ne pourront pas nous atteindre. Parce qu'en persévérant dans l'engagement de notre baptême, le triomphe de Jésus sera notre triomphe. Mais dans ces versets 18 à 22, il y a quelques passages qui ont fait l'objet de controverses dans l'interprétation qui en était faite. Et si j'entre là dans le détail, on voit que le verset 18 commence en disant « Le Christ aussi a souffert pour les péchés une fois pour toutes », écrit Pierre, verset 18. Et donc, nous avons nous aussi parfois à souffrir en silence. Il est dit que nous devons contempler l'œuvre de Christ. Christ a souffert pour les péchés. Jusque-là, nous pouvions nous concentrer sur nous-mêmes dans la lecture de cet épître, mais là, il y a un changement de regard. Au lieu de regarder nos souffrances, nous sommes invités à regarder les souffrances de Christ, à nous décentrer. Et il est dit que Christ a souffert, qu'il a souffert pour les péchés. Il est dit encore que dans cette souffrance pour les péchés, il y a un sacrifice pour les péchés. Le sacrifice pour les péchés visait à apaiser la colère de Dieu. Il est dit encore dans ce texte que par sa mort, Jésus s'est substitué à nous, qu'il a pris notre place. Lui, le juste, pour les injustes, dit le texte. Nous étions injustes. Il est devenu injuste pour nous. Et par le fait qu'il se soit substitué à nous, Jésus nous a ouvert l'accès à Dieu, le Père. Imaginez. Jésus nous a ouvert, alors que nous étions injustes, il nous a ouvert l'accès à Dieu le Père. Nous avons ce privilège inouï de pouvoir parler à Dieu le Père. Le texte continue en disant qu'il a souffert d'une mort humaine, donc la mort par la crucifixion, mais ce texte ajoute « mais il a été rendu à la vie par l'Esprit ». Ce texte rappelle que 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité et qu'il est ensuite monté au ciel et qu'il vit désormais dans son état d'exaltation à la droite de Dieu le Père. Ce que cela nous dit, c'est que non seulement Jésus nous a ouvert l'accès à Dieu, mais ce texte nous dit que Jésus est notre Seigneur et qu'il est vivant, qu'il est le vainqueur. Et au verset 19, Pierre enchaîne en disant « C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. » Et avec ce verset difficile, plusieurs questions se posent. Quand est-ce que Jésus est allé faire cette proclamation? Quel était le contenu de cette proclamation aux esprits en prison? Et puis, qui sont ces esprits qui sont en prison? Et il y a différentes réponses qui ont été apportées au cours de l'histoire. Il y a une première ligne d'interprétation qu'on trouve encore aujourd'hui dans la Bible du Semeur, par exemple, qui pense que Noé est celui qui a été revêtu de l'Esprit du Christ et qu'il est allé prêcher à ses contemporains pour qu'ils se repentent. Et les esprits en prison seraient donc les contemporains de Noé, qui sont emprisonnés dans leur injustice, dans leur rébellion. Le péché était comme une prison pour eux. Alors il peut être étonnant de parler de gens qui aujourd'hui sont morts en disant que ce sont des esprits. Et cette interprétation pose différents problèmes. C'est Augustin qui a développé cette interprétation pour faire face à une autre idée qui prévalait de son temps et qu'on retrouve d'ailleurs dans le symbole des apôtres où il est question du Christ qui est descendu aux enfers. Et si vous êtes peut-être spécialement d'origine catholique, mais peut-être aussi si vous êtes protestant évangélique, vous avez appris le symbole des apôtres, peut-être par cœur, et vous vous souvenez qu'il est dit dans ce symbole qu'il est descendu aux enfers. Cette idée est née parce que les pères de l'Église se posaient la question de savoir ce que Jésus avait bien pu faire entre le moment de sa crucifixion et le moment de sa résurrection. Où était-il à ce moment-là? Et on en était venu à dire que Jésus était descendu aux enfers, et certains qui étaient un peu trop audacieux avaient même affirmé que Jésus, en descendant aux enfers, aurait ouvert les portes des enfers pour que tout le monde soit libéré. D'autres ont été un peu plus prudents et ont affirmé que certains ont été libérés parce qu'ils ont entendu la prédication du Christ et qu'ils se sont convertis. Mais dire cela, ça voudrait dire qu'ils auraient eu la possibilité de se convertir après leur mort. Or, l'Écriture nous dit qu'on ne peut pas choisir notre destin après notre mort, que tout se joue ici-bas. Alors, pour ne pas contredire cette vérité biblique affirmée partout ailleurs, Augustin a privilégié une interprétation spirituelle en affirmant que ce n'est pas le Christ lui-même qui a prêché, mais que c'est Noé revêtu de l'Esprit du Christ qui est allé prêcher à ses contemporains. Et les réformateurs, globalement, ont suivi la pensée d'Augustin. Je n'entre pas dans les détails des problèmes soulevés par cette interprétation. Il y a une deuxième ligne d'interprétation qui a cherché à comprendre ce passage en lien avec le symbole des apôtres. Il est descendu aux enfers. Donc si Christ, entre sa crucifixion et sa résurrection, serait descendu aux enfers pour y proclamer le salut, ça pose des questions. C'est une question qu'on se posait à l'époque. Comment les croyants de l'Ancien Testament peuvent être rachetés par Jésus-Christ, puisqu'ils ont vécu avant Jésus-Christ et qu'ils ne pouvaient pas connaître l'œuvre de Christ à la croix? Autre question, qu'est-ce que Jésus a fait donc durant ces 3 jours entre sa crucifixion et sa résurrection? Au départ, on a réfléchi à ces questions sans avoir de texte biblique bien précis en tête. Et puis un peu plus tard, pour justifier ce qu'on en était venu à dire, on a pris la référence de 1 Pierre 3, verset 19. Mais dans notre texte, rien ne dit que Christ serait descendu. Relisez le texte, il est dit que Christ est allé, mais pas que Christ est descendu. Il n'est pas non plus dit qu'il est allé aux enfers. Et puis, chose plus étonnante, c'est que la fin du verset 18 parle de la crucifixion, puis de la résurrection. Et ensuite, il y a 2 mots-clés, « c'est alors », qui indique qu'on est dans une séquence logique qui implique que ce qui vient après est postérieur à la résurrection. Donc que l'événement de la proclamation aux esprits en prison a eu lieu après la résurrection. Beaucoup de commentateurs contemporains adoptent Une troisième ligne d'interprétation, et c'est à celle-là que je me rallie aussi, tout en admettant que des chrétiens, des théologiens évangéliques très sérieux, optent pour d'autres interprétations. Ce qu'il m'a semblé en étudiant ces textes, c'est qu'il faut comprendre qu'après la résurrection de Christ, Christ est monté au ciel. Et dans ce mouvement ascendant vers le ciel, il est allé prêcher à ces esprits qui étaient en prison. Alors, la question, c'est de savoir qui sont ces esprits et quelle est cette prison. Et pour comprendre cela, il faut comprendre quel était le contexte dans lequel Pierre écrivait. À l'époque, même les gens païens connaissaient l'histoire de Noé en Asie mineure. Vous savez peut-être que l'histoire du déluge est connue à différents endroits. Or, le déluge était expliqué comme la conséquence d'esprits mauvais qui auraient entraîné l'humanité dans la corruption. Il y a un lien qui était fait avec ce récit étrange que l'on trouve en Genèse chapitre 6. Vous connaissez peut-être ce texte. Il nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, qui sont ces fils de Dieu? Eh bien, on comprenait, à l'époque de Pierre dans le judaïsme, qu'il s'agissait d'êtres célestes. Ces êtres célestes se sont unis à des filles d'ici-bas pour donner naissance à des géants, nous dit le texte. Or, la littérature juive de cette époque voyait dans ces fils de Dieu des esprits pervers, des êtres démoniaques, des gens, des êtres spirituels qui se seraient emparés d'hommes pour engendrer des héros fameux qui auraient été possédés par des forces mauvaises, des géants, qui ont des géants parce qu'ils étaient géants dans leur capacité, dans leur force spirituelle, des géants qui ont amené le mal et le chaos dans le monde. Un point inouï, un point tel que Dieu en vient à prendre la résolution de détruire le monde. Il faut savoir que jusque-là, la violence s'était propagée par des individus. Mais désormais, cette violence, elle est relayée par des peuples. Dieu décide de mettre un terme à cette violence. Il y aura le déluge. Et la littérature juive de cette époque, le premier livre d'Enoch, par exemple, ajoute que Dieu aurait empêché dès lors ces esprits démoniaques d'accéder au ciel. Il les aurait emprisonnés, il les aurait mis dans une prison. Et ce qu'écrit Pierre va tout à fait dans le même sens. Ce sont des esprits impurs, trompeurs, qui ont perverti l'humanité dans les générations qui ont précédé Noé. Ils ont été rebelles à Dieu. Ils ont conduit à un accroissement de l'impiété sur la terre. Mais Dieu a anéanti leur pouvoir. Il a limité leur force. Il a limité leur pouvoir d'action. C'est ce que Pierre dit dans sa deuxième lettre, chapitre 2, verset 4. Il dit « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. » Donc Pierre reprend ce que les Juifs de son époque croyaient à partir de Genèse 6, qu'il y avait eu un moment de révolte, que Dieu, au bout d'un moment, face à la corruption de l'humanité, a dit stop et qu'il a empêché ces esprits mauvais de corrompre davantage en les enchaînant, en limitant leur pouvoir d'action. Et quand Christ est ressuscité, eh bien, il est allé asseoir son pouvoir dans le ciel. Et dans ce mouvement de montée, eh bien, il a proclamé sa victoire devant ces puissances célestes déchues et condamnées. Et cette proclamation de la victoire devant ces êtres célestes, eh bien, marque le triomphe de Jésus-Christ sur toutes les puissances visibles et invisibles. Christ est vainqueur. Rien ne peut lui résister. Aucun être spirituel ne peut s'opposer à lui. Il est le grand vainqueur. Et ça, c'est un formidable encouragement pour notre foi. Parce que Christ nous fait participants de cette victoire et il veut que nous soyons vainqueurs avec lui. Quand le mal dominait le monde, à l'époque de Noé, Dieu a envoyé le déluge. Mais il a sauvé un petit nombre de personnes. Et de même, quand Pierre écrit aux croyants d'Asie mineure, ils sont un petit nombre de chrétiens en Asie mineure. Mais Pierre leur écrit pour leur dire, « Voyez, Dieu va faire pour vous ce qu'il a fait pour Noé. Il va vous tenir face aux persécutions, face aux souffrances injustes. Et il va vous entraîner dans sa victoire. Faites-lui confiance, ne vous découragez pas. » Et de même, aujourd'hui, si tu souffres ce matin, Dieu te dit la même chose. Persévère, sois confiant. Ce qui est arrivé pour Noé, ce qui est arrivé pour les premiers chrétiens, va se passer pour toi aussi. Christ veut t'entraîner dans sa victoire, pour que tu ne faiblisses pas. Vous savez, quand Noé a construit son arche, c'était sous les moqueries de ses contemporains. Mais en construisant l'arche, il a montré ce que veut dire mettre la foi en œuvre. Il a montré ce que veut dire obéir à la parole du Seigneur. Il a obéi à la parole. Et nous aussi, nous devons mettre notre foi en œuvre. Notre arche à nous, le moyen de notre salut, c'est la croix de Jésus-Christ. Grâce à l'arche, Noé a pu franchir les eaux du déluge. Nous, c'est notre baptême qui nous permet de franchir aussi toutes les murailles qui peuvent se dresser devant nous. Non pas que le baptême nous sauverait, c'est la mort du Christ qui nous sauve. Le texte est clair aussi à ce sujet. Mais le baptême, c'est l'attestation de notre foi devant Dieu. C'est le fait d'avoir fait serment avec Dieu, de lui avoir dit « je m'engage avec toi ». Eh bien, ce baptême, c'est notre force, c'est un repère dans notre histoire pour dire que nous avons pris l'engagement de servir Dieu. Si vous êtes dans le doute, souvenez-vous de votre baptême. Ce baptême nous dit que nous ne pouvons plus vivre comme autrefois. Nous ne pouvons plus rendre le mal pour le mal. Nous devons bénir désormais. Peut-être devons-nous souffrir injustement. Mais souvenons-nous que notre délivrance, que notre victoire est déjà acquise, que nous sommes du côté des vainqueurs et non pas des vaincus, et que Christ va nous entraîner dans son cortège triomphal. Il nous amène avec lui, il nous garantit la gloire. À nous de rester fidèles et de demeurer dans la parole de Dieu. Amen.